En fait, il y a quelque temps, en lisant ma Bible, je suis tombée sur un passage dans lequel c'est marqué « Après s'être consulté, le roi prit telle décision. » On va y revenir après, mais en fait, ça m'a interpellée cette expression « après s'être consulté ». Je me suis dit, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Moi, quand je prends une décision, je fais quoi? Est-ce que je me consulte? Est-ce que je me demande conseil à moi-même? Est-ce que je demande conseil à quelqu'un d'autre? Est-ce que je demande conseil à Dieu? Et voilà, donc ça m'a un peu amené à réfléchir et j'ai creusé un peu ce sujet. Donc c'est un peu sur ce sujet-là que je vous propose qu'on discute un petit peu ensemble. Et voilà, sur cette expression et sur nous, notre façon de réfléchir ou de prendre des décisions. Du coup, je vous propose qu'on aille voir ce verset. Donc c'est dans 1 Roi 12, verset 28. Donc, je vais vous le lire, 1 Roi 12, verset 28. Et donc, après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, pour vous donner un peu de contexte, on est juste après la mort de Salomon, où là, ça commençait déjà un petit peu à mal tourner hein, sur la fin de son règne. Hein. Salomon, il a commencé à se détourner. En tout cas, à instaurer des cultes à d'autres dieux parce qu'il s'était mis en couple avec d'autres femmes, des femmes étrangères. Et puis voilà, la fin de sa vie, elle est un peu compliquée. Et donc à sa mort, il y a en fait son fils Roboam qui devient roi. Et en parallèle, il y a un autre qui s'appelle Jéroboam, à qui l'Éternel aussi avait fait des promesses en lui disant « Toi, tu régneras sur une partie du peuple. » Et donc là, on voit ici Jéroboam qui se met à régner donc sur une partie du peuple d'Israël. Et puis en fait, il s'inquiète que le peuple se rallie avec l'autre partie du territoire. Et donc, il se dit « Tiens, s'ils continuent à monter à Jérusalem, bah, ils vont continuer à garder des liens avec l'autre partie du peuple. » Et moi, ça m'inquiète un peu, donc je préfère les garder captifs. Donc, je vais créer une nouvelle statue, en l'occurrence un veau d'or, pour éviter qu'ils aillent monter à Jérusalem. Donc, c'est un peu ça le contexte. Donc, après s'être consulté, il a pris cette excellente décision d'éloigner le peuple de Dieu. Vous avez bien compris que c'est ironique. Hein. Et voilà. Et donc, si on regarde cette expression, après s'être consulté, en fait, peut-être que vous, dans vos traductions, vous avez autre chose, parce que ça peut être traduit suivant les Bibles, c'est quand même marqué après avoir demandé conseil, ou et le roi prit conseil. Donc il y a malgré tout une forme de conseil. On ne sait pas auprès de qui forcément il a pris conseil. Et le verbe qui est utilisé, enfin le mot qui est utilisé en hébreu, alors je suis navrée parce que j'ai pas le bon accent peut-être, c'est yatz. Le terme qui est utilisé pour consulter ou s'être consulté ou demander conseil. Et donc, ça veut bien dire conseiller, donner un conseiller. Ça veut aussi dire se consulter ensemble ou échanger des conseils, délibérer. Mais ce terme, il veut aussi dire conspirer. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de se dire que sur un même mot, il peut y avoir trois sens et trois sens qui vont vraiment avoir potentiellement un impact très différent dans les décisions qu'on va prendre, par exemple. Et si on regarde, je vous ai dit, la première définition, c'est conseiller, consulter ou un conseiller. Et par exemple, alors pas besoin de le chercher, hein, mais dans Ésaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Donc ça, c'est la première signification du mot yatz. Après, le deuxième, donc je vous disais, c'était se consulter, échanger, délibérer. Donc là, on a un exemple dans 1 Chronique 13.1. C'est David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Et la troisième, c'est quand je vous disais tout à l'heure conspirer. Donc là, en psaume 83, verset 3. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc voilà, ça c'est un peu la déclinaison de ces mots-là. Mais du coup, nous, et c'est peut-être là où on peut essayer de réfléchir ensemble, comment on prend nos décisions? Est-ce que c'est la conspiration? Est-ce que c'est la délibération? Est-ce que c'est échanger avec les autres ou avec Dieu? Voilà, sur quoi on s'influence, sur quoi on prend nos décisions? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que c'est une personne spirituelle? Et du coup, je vous propose qu'on regarde un peu aussi ce que dit la Bible à ce sujet. Donc voilà, j'ai listé quelques points. C'est pas exhaustif, hein, c'est pas voilà, c'est juste une petite réflexion un peu simple là-dessus, mais peut-être déjà on peut se rappeler, je dirais, deux piliers, deux points essentiels dans notre relation avec Dieu. C'est par rapport aux décisions qu'on doit prendre. La première, c'est que, et c'est une évidence hein, pour nous en tant que chrétiens, mais on est appelé à faire sa volonté et en même temps on est libre. On a ces deux choses. En Jean 4, 34, il y a Jésus qui dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et en Galates 5, on nous dit aussi « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Donc on est à la fois, en tant que croyant, appelé à le servir. Et c'est pour ça qu'il y a un changement qui doit s'opérer dans notre vie, pour accomplir la volonté de Dieu. Et en même temps, on est libre. On est libre de prendre nos décisions. Et d'ailleurs, on est responsable devant Dieu. Au-delà de la liberté qu'on a, c'est Dieu nous a créés à son image. Et son image, c'est aussi la capacité de faire des choix et de prendre des décisions. Et en fait, on doit apprendre, nous, à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est d'une certaine manière, c'est une exigence. Mais aussi, c'est que plus on va le faire, plus on va se rendre compte que ça nous donne de la joie. Ça nous donne une joie ou une paix intérieure. Et puis parfois on se dit, mais comment je peux comprendre la volonté de Dieu? Est-ce que je cerne bien la volonté de Dieu? On va pas forcément traiter du sujet de la volonté de Dieu, mais peut-être juste se rappeler que Dieu, il cherche pas à nous faire des pièges. Son but, c'est quand même qu'on comprenne sa volonté. Donc il nous donne des moyens. Il est pas là, la volonté de Dieu, c'est pas un piège, c'est pas des trucs, débrouille-toi, cherche, et puis peut-être qu'un jour tu comprendras. Non, Dieu, il nous a donné des moyens. On a la Bible, on a le Saint-Esprit. On a aussi parfois les circonstances qui nous permettent de discerner que c'est la volonté de Dieu. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que dans les décisions qu'on peut prendre, Dieu, il cherche pas à nous embrouiller et il veut nous aider à prendre des bonnes décisions et des décisions qui sont selon son cœur. Et peut-être, une des clés aussi qu'on peut se poser quand on prend une décision, c'est est-ce que je cherche à me plaire? Ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu quand je prends une décision? Et en Josué, il établit un peu une norme, puisque lui, en Josué 24, 15, il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et c'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je sers mes intérêts, telle autre personne, etc. En tout cas, ça, c'est un pilier, je dirais, important de notre relation avec Dieu, c'est chercher à faire sa volonté et en même temps, on est libre. C'est-à-dire que soit si on se trompe, soit si on pêche même volontairement, Dieu, il est plus grand que tout ça et quoi qu'il se passe, il continuera à nous aimer, à nous accepter dans son sein. Ça ne remet pas en cause l'amour qu'il a pour nous. Mais ce qu'on peut se dire aussi comme deuxième élément, je dirais, fondamental dans notre relation avec Dieu, c'est que quoi qu'on fasse, et quelle que soit un peu l'orientation, la volonté que Dieu, la volonté de Dieu, en fait, il faut vraiment qu'on soit convaincu que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Il a des promesses, il nous fait des promesses, et ces promesses-là, c'est pour le meilleur, c'est pour notre bien. Et dans le passage qu'on a regardé, là, dans Un Roi, en fait, donc je vous ai dit, Jéroboam, il a eu peur que la partie hein, du royaume d'Israël qui était sous son autorité, elle commence à se rassembler avec le royaume du Nord, enfin l'autre partie. Et pourtant, en fait, si on regarde un peu avant, dans Un Roi 11, Jéroboam, il reçoit cette promesse. Il reçoit la promesse qu'il va régner sur une partie du royaume. Alors, je vais juste essayer de... Donc, en fait, c'est un prophète, Ajija, qui parle, qui s'adresse à Jéroboam. Et donc, en 1 roi 11, versets 31 et suivants, et il dit « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. » Et je noterai pas, au verset 34, « Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. » Donc en fait, il a reçu cette promesse. Et là, en fait, Jéroboam, il a, comme on dirait aujourd'hui, il a stressé. Il a paniqué, là. Il s'est dit non, ça va pas le faire. Et en fait, ça, c'est un point aussi important dans les décisions qu'on prend. Parfois, on prend des décisions importantes dans notre vie, mais Dieu nous a peut-être parlé à certains sujets, et puis on va prendre une décision à un instant T, parce qu'on va, finalement, qui est pas forcément cohérente avec la promesse qu'on avait reçue, parce que on voit pas cette réalité aujourd'hui. Mais en fait, Dieu, c'est un Dieu de promesses. On sait qu'il tient ses promesses. Et vraiment, là, c'est un exemple. Jéroboam, typiquement, il a pas cru dans ses promesses et dans le fait que Dieu voulait le meilleur pour lui. Et, en Éphésiens 2:10, il nous est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et en fait, ça nous montre bien que Dieu, il a préparé notre avenir, qu'il a planifié, il a des choses pour nous, il a des choses bonnes et bien meilleures même que ce qu'on peut nous imaginer. Et ils sont plus grands que ce que nous, on peut avoir dans notre tête. Et en fait, il veut nous bénir, même si on peut pas... Parfois, on n'arrive pas à le discerner matériellement, concrètement, dans ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est une assurance qu'on a, parce qu'on sait que Dieu, il ne ment pas. On sait que Dieu, il ne triche pas. Il nous trompe pas. Et en fait, si on comprend ça, si on arrive à bien intégrer qu'il a un plan pour nous, qu'il est bien meilleur que celui qu'on peut imaginer, bah ça peut aussi nous aider à prêter à l'oreille à ce qu'il peut avoir à nous dire et peut-être à nous aider à penser à fixer plus nos pensées sur sa pensée à lui plus que sur la nôtre. Donc ça, c'était déjà deux, je dirais, piliers un peu fondamentaux de notre relation que je voulais juste rappeler, hein. C'est un peu des évidences, mais à la fois on est en tant que croyant appelé à faire la volonté de Dieu tout en restant libre, et on a un Dieu qui a des promesses et un plan pour nous qui est grand et qui est merveilleux. Et après, j'ai voulu regarder un peu aussi de façon pratique, quand on prend des décisions, est-ce qu'on a des conseils un peu dans la Bible sur, voilà, de façon très tangible, d'une certaine manière, de quelques pistes. La première, déjà, on sait, et ça c'est en Jacques qu'on le voit, qu'on peut demander à Dieu de la sagesse. Jacques 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et en fait, c'est vrai qu'on a toujours besoin de sagesse pour faire les choses, mais dans plein de circonstances. Et moi, je me souviens, là, il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'été, on avait une conférence en Angleterre. Alors, c'était pas du tout l'objet de la conférence, mais il y a eu un temps de questions-réponses, quelqu'un a posé une question. Et puis, Pasteur Boyce parlait de son expérience et de sa vie professionnelle, dans un cadre professionnel. Et il expliquait qu'il priait avant chaque réunion, grand rendez-vous qu'il pouvait avoir. Et c'est vrai que je l'avais déjà entendu, et bon, Moi, j'ai un travail où, en gros, je suis en réunion toute la journée. C'est-à-dire, je commence à 8h30 ou à 9h, et jusqu'à 19h30 ou 20h, j'ai des réunions toutes les heures ou toutes les demi-heures. Bon, j'en ai même deux en même temps. Je ne sais pas pourquoi les gens regardent pas l'agenda, mais voilà. Donc, j'enchaîne les réunions en permanence. C'est un peu une partie de mon travail. Et dans ces réunions, parfois, je suis là pour écouter, mais parfois, je vais être là pour prendre une décision ou représenter une équipe, un service, etc. Et en fait, parfois, j'enchaîne tellement que j'y pense pas. Et quand Pasteur Baïs a parlé de cette expérience, je me suis dit, et en fait, maintenant, j'essaye vraiment, même de façon hyper rapide, avant que la réunion commence, ou même elle vient commencer, et je dis, OK, là, juste Seigneur, donne-moi de la sagesse. Terminé. Je demande pas forcément plus, mais pour essayer de me dire, même dans un cadre professionnel, parce que parfois, en tout cas, moi, je peux avoir tendance parfois à vivre ma vie du boulot d'un côté et puis le reste d'un autre côté. Mais voilà, en tout cas, Dieu, il nous le dit. Il nous dit vraiment, si on lui demande, il nous donnera cette sagesse. Et c'est vrai que je me rends compte que très souvent, quand j'ai pensé à faire même cette prière, aussi expresse soit-elle, très souvent, je suis d'une certaine manière paisible. Après, je ne sais pas si fondamentalement, en termes professionnels, j'ai pris la bonne décision, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis en paix, en fait. Je suis détendue. Et en fait, donc je dirais que de façon un peu pratique, on a cette première clé, c'est vraiment de demander à Dieu la sagesse et pas de faire nous selon notre propre sagesse. Et c'est là où, d'ailleurs, l'expression du verset qu'on a lu au tout début, après s'être consulté, hein, qui parfois, c'est parce qu'on va faire les choses de façon impulsive et voilà, c'est OK, c'est ma sagesse, je vais dire ce que je sais. Mais on doit apprendre à dépendre de Dieu et c'est lui qui a toute la sagesse, qui a une sagesse qui nous dépasse, qui a quelque chose qu'on peut même pas quantifier ou percevoir. Et lui, il est là pour nous équiper, il est là pour faire du bien, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi, hein. Il a des projets, il a des projets de paix pour nous. Donc voilà, en tout cas, de façon pratique, on peut demander à Dieu. Un autre point un peu pratique, qu'on voit aussi dans Jacques, c'est de ne pas prendre des décisions sous la colère. Jacques 1, 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et en fait, la colère, ça induit l'homme en erreur. Je pense que c'est important qu'on en soit conscient. Et d'une certaine manière, si le monde va aussi mal, c'est aussi souvent qu'il y a des décisions qui sont prises sous le coup de la colère, sous le coup des émotions de façon générale, mais... Et d'ailleurs, dans la Bible, elle nous déconseille même d'aller au lit sans nous en être débarrassés d'une colère qu'on pourrait avoir contre quelqu'un, contre une situation. En fait, c'est un poison dans notre vie, dans notre relation avec les gens. Et quelle que soit la décision qu'on a à prendre, qu'elle soit petite ou grande, qu'on puisse la prendre vraiment dans la paix. Et si on se rend compte qu'on est en colère, pas prendre la décision, juste confesser, demander la sagesse, demander la paix, la douceur à Dieu, et de pas prendre une décision sous le coup de l'émotion, ce sera vraiment que de la confusion, de la ruine. D'ailleurs, en Proverbe 18, 13, je crois que c'est ça, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. En fait, c'est ce côté-là de prendre des décisions, peut-être avec impulsivité, dans une forme d'émotion qui nous dépasse, parce qu'on ne sait pas la maîtriser, cette émotion, et ça peut engendrer que de la déception, que des choses, des conséquences qui vont certainement pas honorer Dieu. Et voilà, cette colère, ces émotions qui sont liées à la chute, hein, et au péché, et voilà, le but, c'est pas qu'on ait plus d'émotions, c'est qu'on apprenne à les maîtriser, que ce soit pas elles qui prennent les rênes de notre vie, mais bien que ce soit le Saint-Esprit qui nous remplisse, qui nous renouvelle. Et c'est lui qui peut nous renouveler dans notre intelligence. Parfois, c'est des trucs tout bêtes, mais vous savez, parfois, vous allez recevoir un message de quelqu'un, et soit le message, il vous énerve, soit vous étiez très énervé. Mais généralement, c'est par exemple la personne qui vous demande un truc, ça fait 5 fois que vous lui avez déjà répondu, ou elle vous demande un truc impossible, et là, boule de feu, vous avez envie de lui cracher à la figure et tout ça. Et généralement, moi en tout cas, ce que je me dis quand ça m'arrive, c'est ne réponds pas tout de suite. Attends, pose son téléphone. Respire, fais même autre chose. Réponds dans 2 heures, même s'il faut. Et voilà, prends ton temps. Ne t'emballe pas dans ta réponse, dans ta décision. En fait, vraiment, les émotions, et en particulier la colère, mais parfois, on peut vraiment en vivre captif. Et ça va prendre toute la place dans nos pensées. Et c'est pas forcément évident, hein, de dépasser ça, et parce que on parle de la colère, mais parfois elle peut être justifiée. On peut être agacé pour des bonnes raisons, mais c'est pas une bonne conseillère. Et notre chair, elle est faible, elle va pas changer. Elle est égoïste, elle est orgueilleuse. Et notre priorité, ça va être notre réaction. Je suis en colère, bim, je réponds au SMS, je lui renvoie un pic de feu là, qui comprennent bien que je suis en colère. Ben non, c'est pas ce que Dieu il nous demande, et c'est pas là-dedans qu'il veut nous, c'est pas ce type de relation qu'il veut qu'on ait, ni avec lui ni avec les autres. Donc voilà. Ensuite, un peu dans le même esprit, c'est de pas prendre des décisions dans la précipitation. C'est un peu le même esprit, mais voilà, ça c'est Ecclésiaste 3. Alors, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Ecclésiaste 3, 1. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et vous savez, je vous parle beaucoup de ma vie, mais c'est très intéressant. Mais dans mon travail, moi je fais du marketing. Et une partie du principe du marketing, c'est qu'on fait des études. En gros, une partie du travail, c'est aussi de faire des études pour essayer de trouver des produits ou des services ou une façon de communiquer aux clients en fonction de leurs besoins ou de leur profil. Et en fait, pour essayer d'avoir du succès, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour analyser la situation, les besoins des clients, si c'est pour une tranche d'âge donnée, si c'est pour... voilà. Et alors, je dis pas qu'il faut appliquer sa vie professionnelle à sa relation avec Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le temps, c'est un facteur qui a de l'importance. Et Dieu, il voit pas le temps de la même façon que nous, en plus. Nous, on va être... vous savez, c'est comme quand on est petit. On a l'impression que une semaine, c'est interminable. Faut gérer en nombre de dodos qu'il faut assumer avant d'avoir les vacances, avant d'avoir le week-end, etc. Nous, aujourd'hui, on se dit une semaine. Voilà, c'est tout petit, c'est très court, la notion de la semaine. Voilà, Dieu, il voit exactement. Il a pas le même rapport que nous avec le temps. Et c'est pas parce qu'on a une super idée qu'il faut forcément passer tout de suite à l'action. C'est pas forcément si c'est pas le bon moment, il y aura pas les résultats, ils seront pas forcément satisfaisants. Même si la chose elle est bonne, même si c'est bien, ça peut tout à fait être un échec. En fait, c'est Dieu qui est en contrôle aussi de ça. C'est lui qui peut donner le succès, et nous on va vouloir parfois, on veut programmer, d'une certaine manière contrôler les choses à la place de Dieu. Et là aussi, il faut prendre les décisions avec la sagesse de Dieu, au bon moment. Voilà. Vous voulez encore des petits conseils pratiques? Allez, encore quelques-uns. Un autre conseil peut-être avant de prendre des décisions. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que tout s'applique tout dans toutes les circonstances, mais voilà, ça peut être des petites pistes. Prendre conseil auprès des bonnes personnes. Je vous ai parlé de Jéroboam, mais en même temps, le roi parallèle, celui qui régnait en même temps sur l'autre partie, sur la tribu, en fait, ou les deux tribus qui restaient, celle dont on s'est parlé, donc le descendant de David, c'est Roboam. Et lui, dans le même chapitre, juste un peu avant, en 1 Roi 12, verset, je vais vous dire ça, dès le début, en fait. 1 Roi 12, verset 1, et puis les suivants. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Je passe un petit peu. Et ensuite, donc toute l'assemblée d'Israël vint à Jérusalem, à Roboam, et lui parlait ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Et il leur dit, « Allez, et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Bien. On prend le temps avant de prendre une décision. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Consulta, c'est d'ailleurs le même terme que celui qu'on a vu hein, depuis le début, après s'être consulté, demander conseil. Donc le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu lui cèdes et tu lui réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père ? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Et tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Sympa ? Sympa les conseils des jeunes. À votre avis, qu'est-ce qu'il a écouté ?
Les jeunes.
Donc, prendre conseil, c'est bien. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage, hein, Proverbe 12, 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, 7. On est quand même encouragé. On est encouragé à avoir des amis. On est encouragé à prendre conseil. Mais on est encouragé à prendre conseil aussi auprès des bonnes personnes. Et j'ai pas la référence, mais il y a un verset qui nous dit de aussi nous souvenir de nos conducteurs, d'imiter leur foi. Et voilà. Et le conseil qu'on peut se donner, c'est de prendre conseil auprès de personnes sages, auprès de personnes mûres, auprès de personnes qui sont remplies. On a un pasteur, on sait que c'est un homme de Dieu. Et peut-être que ça peut être une sœur plus ancienne. Voilà, nous, on est entre femmes. Ça peut être aussi un temps avec une sœur aînée qui a fermé dans la foi et qui pourra être aussi de bons conseils. Mais voilà, en tout cas, c'est être attentif aux conseils. Déjà, c'est bien de demander conseil. Hein. Parfois, il faut aussi savoir mettre notre orgueil de côté parce que parfois, on veut se débrouiller tout seul. On ne veut pas demander conseil parce qu'on se dit « je vais m'en sortir ». Déjà, c'est important de se dire qu'il y a des moments où ça peut être une bonne chose de demander conseil et puis savoir trouver et identifier qui sont ces bonnes personnes. Ensuite, comme autre petit conseil, j'en ai plus que deux, c'est d'examiner le sujet. Donc, on a dit tout à l'heure de ne pas prendre des décisions dans la précipitation, mais ça va un petit peu avec. C'est aussi bien faire la décision qu'on a à prendre, à bien faire les contours un peu du sujet. Et en Luc 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» En fait, si on fait trop de calculs, parfois, ça ne sert à rien et ça peut être plus négatif qu'autre chose. Mais en même temps, certaines décisions, qui sont des décisions importantes, elles peuvent demander quand même d'être rigoureux, d'être sérieux dans la décision, de bien cerner le sujet. Voilà. Est-ce que je pars en mission pendant 5 ans? C'est pas une décision neutre. Donc, on a les conseils d'un pasteur, mais on a aussi, voilà, peut-être prendre le temps. Qu'est-ce que ça signifie concrètement si je m'en vais, si j'ai une maison, si j'ai, j'en sais rien, moi, des parents un peu âgés, si j'ai, je sais pas, différentes circonstances. Et peut-être que voilà, ça vaut le coup de prendre le temps aussi de réfléchir à la décision dans son ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit. Et voilà, ça, parfois il faut pas prendre les choses non plus trop à la légère. Et ça peut être bien d'analyser, d'évaluer à court et puis à plus ou moins long terme en fait la décision et aussi les impacts ou les conséquences de cette décision, et peut-être que ça va juste nous permettre de voir, de projeter ou d'anticiper les conséquences sans pour autant remettre en question la décision. Peut-être qu'on va la prendre, mais on va s'organiser, on va peut-être prendre des dispositions pour que cette décision, elle soit aussi prise dans les meilleures conditions possibles. Alors, bien sûr, hein, Dieu, il est en contrôle de tout, et peut-être que si on n'a pas pris forcément la bonne décision, Dieu, il est tout à fait capable de nous redresser, de nous remettre sur le bon chemin, hein. Soyons aussi rassurés là-dessus, mais voilà, on est quand même aussi encouragés à poser nos plans avant de prendre une décision. Et puis, peut-être le dernier conseil un peu pratique qu'on peut se donner, c'est aussi de ne pas prendre des décisions en fonction du regard des autres. Et en 2 Chroniques 19, versets 6 et 7, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, mais c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. » En fait, c'est vraiment Dieu qui doit avoir la première place dans notre cœur. Et c'est lui qu'on doit craindre et pas se soucier de ce que disent ou même ce que font les autres. Et même aussi, sur une situation donnée, peut-être qu'un frère ou une sœur très spirituel va peut-être faire les choses d'une certaine façon, mais c'est pas forcément la façon qui nous convient à nous. Ça aussi, c'est important. Et même dans les conseils, d'ailleurs, qu'on peut nous donner, mais on va pas rentrer dans ce détail, mais dans ce point. Mais ce qui marche pour l'une ne marche pas forcément pour l'autre. Et je ne vis pas devant le regard de mon mari, si je suis mariée, de ma sœur, de ma coloc, de ma famille. Je vis devant le regard de Dieu et c'est ça qui importe. Et encore plus, au-delà de tout ça, je vis pas devant le regard des gens du monde. Je vis pas devant mes collègues de travail. Je vis pas Et en fait, Dieu, lui, il est juste, il a une perspective qui est éternelle. Et si on prend une décision avec Dieu avec sa sagesse, avec peut-être une ou deux clés qu'on a vues tout à l'heure, c'est lui qui est en contrôle de ça. Donc pas se préoccuper, de pas vivre selon le regard des autres. Voilà, simplement pour terminer, c'est encore une fois, hein, c'est des petites choses un peu pratiques, hein, la colère, le conseil, la précipitation, tout ça, c'est des petites clés qui peuvent peut-être nous aider dans les décisions qu'on peut prendre. Et puis je voulais juste finir par un verset qui est, si je me trompe pas, voilà, psaume 86, verset 5, simplement juste pour nous rappeler que quoi qu'on fasse et quelles que soient les décisions qu'on va prendre, Dieu, il est toujours là et il nous aimera. Et psaume 86, verset 5, « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Donc là aussi, on peut se rassurer. Je veux dire, si on a pris des mauvaises décisions, et on en a tous pris, et on va encore en prendre, peut-être pas dans les bonnes conditions, peu importe. Dieu, il continue de nous aimer. Quoi qu'on fasse, tant qu'on continue à se tourner vers lui, il sera toujours là. Et dernière chose, vraiment toute dernière, ce qu'on peut surtout se dire, c'est que la décision la plus importante de notre vie, on l'a déjà prise. Ça, c'est une amie qui me l'a dit un jour et je peux vous dire que je ne l'ai jamais oublié, mais la décision de donner notre cœur au Seigneur, on l'a faite. Et ça, c'est la décision la plus importante de notre vie. Dieu vous bénisse.